France Culture. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Culture Monde, le magazine international de France Culture, préparé avec Mélanie Chalandon, Victoria Géraud-Velmont, Joséphine Reinhardt, Gwendoline Troiano, Sacha Mattei et Christine Anger, réalisé par Margot Page. Et à la technique ce matin, c'est Marie-Claire Oumabadi. Parce que la lecture permet de circuler sur les terres d'autrui à travers des chants écrits par d'autres. Comme l'année dernière, à la même période, on est très heureux cette semaine de s'offrir et de vous proposer un pas de côté littéraire en demandant aux écrivains leur part de vérité sur le monde. Nous recevrons demain le romancier palestinien Karim Khatan qui raconte dans l'Éden à l'aube l'histoire d'un amour qui n'a nulle part où aller. L'écrivain grec Makis Malafekas dont les polars pulp racontent crûment une Grèce en crise. Jeudi, le franco-vénézuélien Miguel Bonnefoy, prix Femina pour son dernier roman Le rêve du jaguar. Aujourd'hui, Iman Kachachi pour son dernier livre L'indésirable, paru en novembre chez Gallimard.
Vois-tu ce tableau, ma petite Widiane ?
J'aime pas quand elle m'appelle ma petite. Je ne suis pas sa petite, ni celle de personne d'ailleurs. Elle est irakienne comme moi et j'apprécie de la voir, mais à condition que l'on garde nos distances. J'ignore ce qui m'attire ainsi vers mon contraire. Bagdad serait-elle la seule chose qui nous lie ? Une ville qui remue le couteau dans la plaie, qui poignarde puis empêche la blessure de cicatriser. Une terre furieuse qui méprise tous ceux qui l'ont fui. Allez où vous voulez, vous ne m'échapperez pas. Dispersez-vous, aimez, apprenez, enivrez-vous, commercez, dormez chez vos amantes ou sur le trottoir ou sous les ponts. Monter dans des avions, des yachts, des barques de la mort, des trains, sur des patins, sur des ânes. Tout ce qui viendra de vous me reviendra. Tout ce qu'on dira de vous, finalement, c'est que vous êtes des Irakiens.
Deux femmes irakiennes exilées à Paris, deux générations qui se croisent. L'une a le double de l'âge de l'autre, deux plantes adaptées à des sols différents, dit Widiane. La plus âgée a connu un Irak ouvert aux quatre vents, une capitale, Bagdad, qui était comme la New York du monde arabe dans les années 40-50. La plus jeune fut torturée par le fils de Saddam Hussein. Deux plantes qui ont poussé dans des climats contraires, mais qui, dans la tempête, plient vers une seule et même terre, l'Irak. Bonjour Inam Kachachi.
Bonjour.
Vous aussi, vous continuez à plier toujours vers l'Irak que vous avez pourtant quitté en 79.
Oui, c'est mon pays d'origine. C'est un pays qui ne vous lâche pas.
Donc on vous dit toujours que vous êtes irakienne encore aujourd'hui.
Oui, je suis toujours irakienne.
Et vous l'êtes toujours. Oui. Alors de vos deux personnages principaux dans votre dernier roman, L'Indésirable, en l'occurrence personnage principal, ces deux femmes irakiennes qui se rencontrent à Paris lors d'un concert à l'Institut du Monde Arabe, la plus âgée d'entre elles, Taj Al-Moulouk, qu'est-ce qu'elle a connu de Bagdad que vous n'avez pas connu, puisque vous êtes née bien plus tard. Elle a grandi dans Bagdad des années 40-50, mais aussi que la plus jeune personnage, Widiane, n'aura jamais vu ce qu'elle a connu avant que l'Irak ne se désintègre. Comment on peut le décrire ? Quelles images on en a ?
Oui, c'est vrai que je n'étais pas encore née dans les années 40, à l'époque de Taj al-Moulouk, mais dans les années 40... Je peux dire, l'Irak, c'était comme une fleur qui va s'ouvrir et s'orienter vers un soleil tellement chaleureux. Aujourd'hui, je peux pas dire que c'est terminé, mais c'est un autre Irak que d'autres générations qui est née, qui connaît pas l'Irak d'avant. Dans les années 40, c'était les années où les premières femmes irakiennes ont commencé à fréquenter l'université. Ça veut dire la faculté de droit et de la médecine. Et Taj El-Malouk était parmi les premières femmes journalistes à l'époque. J'ai voulu rendre hommage aux ces femmes qui m'ont ouvert la porte, facilité que je devienne un jour, dans les années 70, une journaliste. Et l'autre personnage, c'est Oudiane. Oudiane, c'est l'autre génération. C'est l'Irak de sombre, qui a sombré dans les guerres et dans toutes sortes de instabilité. Alors, moi, je n'écris pas l'histoire. Je n'essaie pas d'écrire l'histoire. Mais j'essaie de capter l'ombre que l'histoire jette sur les destins des gens normaux.
Cette ombre que vous racontez dans quand Bagdad se lève au lever du jour, vous racontez des femmes parfumées dont les abayas sont entrouvertes sur des robes imprimées, des jeunes femmes sans voile aussi qui arborent des ombrelles colorées. On entend ces joueurs de tambours, de cymbales, de trompettes, de la garde royale, alors que l'Irak n'est plus sous mandat britannique en 1940. Comment se fait-il que la garde royale soit encore là ?
Parce que la famille royale était toujours là. C'était un régime royal. Il y avait la famille royale qui était restée jusqu'en 1958. Et vous parlez de la baïa qui ne cache pas les robes colorées. Oh, tellement c'est différent de la baïa d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est des abayas ou des hijabs ou des sortes de
ça cache beaucoup plus.
D'une tente noire qui cache les femmes. Et heureusement, pas toutes les femmes. Il y a toujours des jeunes qui résistent, qui essayent de garder leur modernité. Mais à l'époque, l'abaya, ce n'était pas un hijab. Elle ne couvre pas la femme. Ça, c'est un habit traditionnel qui embellit. Les femmes.
Taj El-Malouk en profite, qui évolue dans un monde de musique, un monde qui célèbre la jeunesse. Elle est royaliste, la jeune Taj El-Malouk. Elle est journaliste, comme vous l'avez été dans les années 70, Inam Kachachi. Mais elle est journaliste royaliste, par conviction, par habitude, par confort.
Elle marchait avec le temps, avec son temps, avec à l'époque. De dire royaliste, c'est pas comme on parle de la famille royale en France, par exemple, ou dans d'autres pays d'Europe. Une famille royale très pauvre, ça veut dire le roi, il avait besoin demander un prêt à son cousin, le roi de Jordanie, pour acheter une voiture. Alors, c'était une famille royale assez pauvre.
Le roi Faisal II.
Et à l'époque, il y avait une sorte de début d'un pays stable et démocratique. Alors Taj El-Malouk, elle était une femme à part, une jeune femme à part. Elle ose, elle fréquente les milieux un peu différents de sa propre milieu. Et elle a attiré l'attention des gens de pouvoir et l'ont aidée à avoir son journal.
Cette journaliste, elle écrit d'abord des articles pour Carandal, Al-Nida. Ensuite, elle crée sa propre revue. On est alors en août 46. On dit d'elle, en effet, qu'elle est un esprit libre, ce qui ne l'empêche pas d'aller tous les jours au bureau du Pacha. C'est le premier ministre d'Irak qui est alors Nouri Saïd et qui lui ouvre plein de portes à Taj El-Malouk.
Elle considère qu'elle est l'étudiante, l'élève de Nouri Saïd. Et Nouri Saïd, c'est un personnage qui a attiré beaucoup des livres et des opinions différentes. Mais maintenant, les Irakiens, ils jettent un autre regard sur Nouri Saïd, sur son rôle de construire l'Irak. Voilà. Oui, elle était amie avec Nouri Saïd, mais elle était Nouri Saïd était comme son papa, son mentor. Mais elle a adoré un prince qui est
le prince régent
et elle a osé imaginé, rêvé de se marier avec lui.
Oui. Le prince régent qui lui a fait écouter le boléro de Ravel, ils se sont retrouvés là-dessus, même si le boléro de Ravel, ce n'est pas ce qu'écoute Taj al-Mulouk tous les jours. Elle est beaucoup dans des cercles d'artistes. Progressivement, elle se rapproche de peintres, d'écrivains, de musiciens. Ensemble, ils écoutent Louis Armstrong, par exemple, ces quelques notes. Billie Holiday, Ella Fitzgerald. Ce jazz qui se mêle aux lectures des poèmes d'Al-Bouturi, d'Al-Jawiri. C'est ça aussi l'Irak des années 40.
Ah oui.
Comment le fait de côtoyer ces artistes va finir par éloigner progressivement Taj al-Mulouk de la monarchie? Il n'y a pas que ça, il n'y a pas que le fait de côtoyer des artistes, il y a aussi les grands mouvements sociaux de l'année 46.
Elle était très moderne, elle a su détacher de la famille royale à un certain moment et suivre le mouvement de peuple, le mouvement des Irakiens, les manifestations contre le mandat britannique. Et ça, c'était sa faute principale, puisqu'elle a été chassée de l'Irak vers Karachi. Et la même musique qu'on entend maintenant, elle a écouté à Karachi, parce qu'elle a fréquenté quand même Karachi à l'époque, c'était un pays qui vient d'achever son indépendance.
Et, le Pakistan.
Il y avait pas mal des étrangers qui habitent là-bas, des Anglais, des Américains. Le jazz, ça existe aussi.
Et ça nous rappelle l'effervescence qu'il y avait à Karachi, au Pakistan, ces années-là, en 48 notamment, année où Taj al-Mulouk rencontrera celui qui sera l'amour de sa vie, même s'il ne s'est rien passé entre eux, mais ils se chercheront toute la vie et dans le roman essayeront de se revoir à Paris. C'est cette année charnière, 48, le Pakistan est créé depuis un an, donc d'un côté, écrivez-vous, le Pakistan qui se libère, arrache son indépendance, et de l'autre, la Palestine qui se déchire et son peuple qui se disperse. Et le troisième personnage de votre roman, Mansour al-Badi, qui sera donc ce jeune homme plus jeune que Taj al-Mulouk et qui tombera fou amoureux d'elle, lui est palestinien. Ce sont tous ses destins qui se retrouvent à Karachi à ce moment-là.
Oui. Vous dites qu'il ne s'est rien passé entre eux. Mais moi, je trouve que beaucoup de choses ont passé entre eux, même si leur rencontre était presque inexistant, presque imaginaire. Mais dans leur correspondance, toutes sortes de vies a passé pendant 30 ans, 40 ans. Ils échangent des lettres, ils racontent leur vie, ils racontent leurs époques, ils racontent leurs problèmes. Vous savez, dans les pays comme l'Irak, les pays d'Orient, beaucoup de choses passent par les lettres, les téléphones, mais pas dans la réalité.
Ils se sont beaucoup, beaucoup écrits.
Voilà.
Et on en parle comme s'ils avaient vraiment existé, parce que peut-être qu'on peut le dire tout de suite, Inam Kalchachi, même si vous ne le dites pas dans le roman, et si on ne le comprend qu'en discutant avec vous, ces personnages ont réellement existé. Taj al-Mulouk a réellement existé.
Oui, je me suis retournée aux documents, aux livres, de mémoire des grandes personnalités de l'époque. Elle existait. J'ai même des copies de son journal, j'ai pas mal de photos d'elle, et sur la version arabe du roman, c'est sa photo, sa vraie photo sur la couverture, presque nue. Elle a osé poser nue devant un grand photographe à Bagdad dans les années...
Comment s'appelait-il?
Arshak. Le photographe Arshak. Akram, c'était le peintre. Le peintre qu'elle a essayé de le faire tomber. Elle était amoureuse de lui, mais lui, il a osé la repousser.
Il l'a gardée comme égérie, mais pas comme amoureuse,
comme modèle.
Donc Taj al-Mulouk a bel et bien existé. En France, plus tard, elle épousera un militaire qui s'est battu en Algérie. Elle sera espionne pour son compte. Oui. On y reviendra, Inam Kalchachi. Il faut maintenant parler de Widiane, l'autre personnage de votre roman. Cette jeune femme de 35 ans qu'elle rencontre par hasard à l'entrée de l'Institut du Monde Arabe. Elles se rendent toutes les deux à l'Institut du Monde Arabe à Paris pour assister à un concert. Elle, Widiane, de qui est-elle inspirée?
D'un vrai personnage aussi, une fille qui travaille comme architecte, Elle joue toujours le violon dans des orchestres et je la rencontrais à Paris. Elle m'a raconté certains aspects de son histoire et je trouvais que c'est bon de la mettre comme personnage en face de Taji parce que un roman qui parle des années 40, ça peut pas intéresser les jeunes d'aujourd'hui. Il faut trouver un autre personnage moderne qui existe, qu'elle a vécu jusqu'à maintenant. Il y avait 40 ans d'écart entre les deux personnages et je trouvais que Woody Allen était l'équivalent moderne, l'équivalent d'aujourd'hui de Taji. Toutes les deux étaient chassées de l'Irak. Toutes les deux, ils ont vécu des moments très difficiles. Alors, Woody Allen, ça existe, oui, oui. Mais il y a des trous. J'essaie avec l'imagination de remplir ces trous vides dans l'histoire.
De raconter des histoires que vous leur imaginez. Est-ce que votre voisine a vraiment, comme Woody Allen, rencontré la route du fils aîné de Saddam Hussein, Uday, que vous appelez le professeur?
Je n'ai pas prononcé le nom de Saddam Hussein ou le nom de son fils. J'ai toujours, malgré que je suis en France depuis des longues années, j'ai toujours peur de prononcer des noms qui peuvent m'entraîner dans un problème, pas seulement moi, ma famille, qui ont resté là-bas. J'ai dit c'est le fils d'un cheikh, le fils d'un notable. Mais je n'ai pas prononcé le mot de Saddam ou de son fils. Mais tous les Irakiens, ils savent les histoires. Et, parce que même dans YouTube, vous pouvez tomber sur des films de comment il a réagi avec les femmes, comment il a traité avec leur adversaire.
Donc, en effet, vous ne prononcez jamais ce nom de famille de Hussein. Je peux lire un extrait du passage où vous le présentez, ce personnage-là, le professeur. Vous dites, page 98, vous écrivez « Une partie des êtres humains hérite de fortunes léguées par leurs aïeux, une autre de maladies génétiques. Le sort a voulu que le fils du cher, lui, hérite du pouvoir sur ses semblables. Une puissance brutale dont il ne sait que faire et qu'il dilapide dans l'exercice du mal. Il en invente des formes inédites, destinées à plonger ses congénères dans le désarroi. C'est un créateur de préjudice hors pair, un innovateur en la matière, qui n'a pas son pareil pour outrager, humilier, terroriser. Sa cour lui a octroyé le titre de professeur, sans qu'il ait même à le demander. Des lèche-bottes qui prolifèrent comme des mouches, tout le temps et partout. L'un crache son chewing-gum saveur vice dans la bouche de son acolyte qui le mâchouille à son tour. Il l'étire sur le bout de sa langue et souffle une grosse bulle à la face du premier. L'arbre de l'imposture pousse sur la promenade d'Al-Zawara, le plus grand parc de la ville. Leurs branches et leurs ramifications s'étendent, recouvrent bientôt les jardins domestiques dans tout Bagdad. Dans le pays, une nouvelle tribu est née, les Banu Nifak, cette bande d'hypocrites.
Oui, oui, c'est la peur qui fait naître des peuples comme ça. Vous voyez ce qui se passe en Syrie maintenant. Quand on voit à la télé les films de prison de Assad, vous pouvez imaginer la même chose en Irak. C'était pareil. On entend des gens et on voit des gens qui ont été emprisonnés, soit disparus totalement, soit revenir cassés et avec grande amertume. Et ça, ça laisse des peurs chez les autres. Parce que si vous... On ne peut pas être résistant. Dans un pays comme l'Irak, il n'y avait même pas... On ne peut pas parler dans la littérature de résistance. Être résistant, ça veut dire vous disparaissez. Vous entrez dans une prison, peut-être vous ne sortez pas. Mais il poursuit toute la famille. Le père, le frère, le mari, le fils. Alors, jusqu'à maintenant, moi, je sens, en parlant de ça, j'ai le frisson parce que c'est un peur qui ne se guérit pas, qui ne se guérit pas. Et le grand cadeau que j'ai eu en vivant ici en France, c'est la sécurité, de sentir en sécurité. Ce qui est, pour vous, c'est quelque chose de normal. Qui vient de comme ça, avec la naissance, et il reste jusqu'à la dernière jour de votre vie. Mais être en sécurité pour quelqu'un qui a vécu dans des régimes totalitaires, ça n'a ça a un autre goût. C'est un grand cadeau, c'est un grand privilège, vraiment.
Et donc il faudra se battre jusqu'au bout pour garder cette sécurité, voilà, et cette liberté, où qu'on soit, Inam Kashashi. En effet, oui, Diane, elle a peur, puisque quoi qu'il arrive, le professeur a déjà eu une partie de sa famille, l'a séparée de son compagnon, son promis, Youssef, en le nommant président de la fédération du squash. Au sein du comité olympique, tous les sports sont aux mains du fils du cher, y compris ceux qu'on ne pratique pas en Irak, écrit Widiane par exemple. En l'occurrence, Widiane, qu'est-ce qui lui arrive? C'est le garde du corps du professeur qui vient la voir un jour et qui lui dit qu'elle a été choisie.
Elle pratiquait, elle montait au cheval dans un club et apparemment, il y a un garde corps qui passe dans les universités, dans les clubs, et choisir les belles filles pour les présenter à son maître. Il a choisi. Il a demandé de venir rencontrer le fils de Cheikh. Et le fils de Cheikh, il l'a choisi pour organiser son anniversaire avec d'autres filles, d'autres femmes, et des femmes de bonne société. Mais apparemment, elle a commis une faute.
Je crois que c'est votre téléphone qui sonne. Mais écoutez, pour l'instant, ne vous inquiétez pas, on va trouver d'où ça vient. C'est vrai que ça dénote un petit peu par rapport à ce que vous étiez en train de nous raconter. D'autant que la scène de torture que vous racontez, Inam Kashashi, dans votre livre, c'est une scène terrible, une scène qui dénote aussi avec le reste du roman, puisqu'il va contribuer à lui faire perdre Louis. Racontez-nous si c'est vraiment quelque chose qui est arrivé à Widiane. Est-ce que vous voulez... Attendez, je vais prendre votre téléphone. Regardez, hop là, je vais le mettre en mode avion, ça va aller plus vite. Alors, allez-y, dites-nous, est-ce que cette scène-là, c'est vraiment une scène que Widiane vous a racontée? C'est pas grave.
Oui, elle a fait plus que ça. Elle a fait plus que ça. Mais moi, j'ai utilisé l'imagination pour atténuer, pour raconter une sorte d'histoire qui a une liaison avec son profession de musicienne et la perte qu'elle a subie à cause de lui. Mais elle a perdu beaucoup de choses de plus précieux.
Elle a perdu son métier, elle a perdu Louis.
Elle a perdu son amant, son fiancé. Et pourtant, Youssef, le fiancé, il était victime. Il aussi, c'est un professeur à l'université qui enseigne, c'est le professeur de fils de Cheikh. Mais il avait peur. Dès que le fils de Cheikh a commencé à repérer sa fiancée, il a laissé tomber. Il a laissé tomber sa fiancée malgré l'amour qu'il porte à elle, parce que personne n'ose affronter le pouvoir.
Lors de cette grande cérémonie organisée par le professeur pour organiser son anniversaire, à lui, il lui mettra un casque sur les oreilles et poussera le son le plus fort possible jusqu'à lui faire perdre Louis.
Oui, oui, parce que d'abord, il l'a invité à une fête où une sorte de tout le monde doit déguiser. Et il choisit vraiment des idées malsaines. Chaque invité doit venir déguisé dans un handicapé, puisque le fils de Cheikh a subi un attentat, il a été paralysé.
Il était en fauteuil roulant, tout le monde va se déguiser en personne handicapée, c'est ce qu'il demande.
Fauteuil roulant programmé par les Japonais, même il peut danser le tango, il danse toutes sortes de danses, c'est programmé. Le fauteuil roulant danse d'elle-même. Et elle était fâchée, elle arrive sans déguisement. Et pour lui, c'était un horreur. Pourquoi il pose? Pourquoi vous n'êtes pas déguisée? Et elle a menti. Elle a dit, je suis malentendante, je suis sourde. Alors, la sourdité, ça ne se voit pas. Je ne peux pas avoir un béquille ou un rouleau sur l'œil. Et après, quand il a su qu'elle a menti, elle a voulu la mettre. Vous voulez être sourde? Voilà, je vais vous rendre sourde.
Elle était déguisée en sourde, lui a-t-elle dit, ce qui était un affront de trop pour le professeur, qui lui donc met ce casque sur les oreilles et dont il pousse le son à fond. Elle, la violoniste que des marteaux assourdissants ont donc dépossédée du jour au lendemain, et de son ouïe et de son métier. Oui, Diane aime beaucoup écouter ce morceau, l'adagio de Tommaso Albinoni, ici joué par l'Orchestre Philharmonique de Berlin, dirigé par Herbert von Karajan. Inam Kashashi, dans quel contexte joue le violon de Oui, Diane avant qu'elle ne quitte l'Irak? Comment ses cordes se mêlent au bruit de la guerre avec l'Iran, qui commence en 1980?
Oui, oui, le violon était toute sa vie, depuis l'enfance. Et son violon, elle l'a accompagné partout. Et dans les années d'embargo, dans les années 90, les musiciens, ils ne trouvent pas des cordes parce que c'était interdit d'importer des cordes. Et heureusement, après ce qu'elle a subi avec le fils de Cher qu'elle a perdu, heureusement, il y avait le conseil culturel français à Bagdad. Et c'est une histoire vraie. Elle est allée lui raconter, parce que lui, il était toujours présent dans les récitals, dans les orchestres de l'orchestre symphonique irakien. Il la connaît bien. Alors, elle n'ose pas parler à personne. Elle est allée le voir dans son domicile. Elle lui a raconter son histoire et c'est lui qui s'en charge de la faire venir en France. Il ne peut pas faire ça seulement pour elle. Alors, il a inventé une invitation pour plusieurs jeunes musiciennes pour qu'elles reviennent avec eux. Et c'est comme ça qu'elle est arrivée à Paris.
Avec cinq autres artistes, cinq autres musiciens, elle, tout de suite, des chirurgiens, des médecins vont s'occuper d'elle et contribuent à lui faire recouvrer un petit peu l'ouïe. Alors, elle n'a pas retrouvé
tout à fait.
Mais elle peut jouer de nouveau du violon. Donc, c'est par le violon que viendra son salut. Oui. Et c'est un peu plus tard, mais pas beaucoup plus tard, après son arrivée à Paris, qu'elle rencontrera Tajal Moulouk. Dans la vraie vie, votre voisine qui a inspiré Oui, Diane est Tajal Moulouk, qui elle a vraiment existé, qui est cette grande journaliste des années 40 et 50 à Bagdad. Elles ne se sont pas rencontrées. C'est vous qui avez imaginé leur longue discussion sur le canapé Tajal Moulouk. Cette amitié teintée de jalousie et d'hostilité. Pourquoi, Inam Kashashi, Oui, Diane, est-ce qu'elle a l'impression que ce qu'elle a vécu sous Saddam Hussein est une sorte de contre-coup de la grande liberté qui avait cours en Irak 30 ans plus tôt et qu'a connu son aîné Tajal Moulouk?
Parce que Oui, Diane, elle avait un seul amour dans sa vie. Elle est jeune, mais elle avait un seul amour dans sa vie et elle a perdu cet amour, Youssef. Tajal Moulouk, elle avait des centaines des admirants, d'amour, et des gens. Elle utilisait les hommes comme les hommes utilisent les femmes. Ça veut dire dans des pays un peu où la femme n'avait pas leur indépendance, leur courage. Ça veut dire il séduit une femme, il couche avec elle une seule fois, après il le rejette. Alors Tajal Moulouk, elle a voulu venger. Dans son esprit, c'est une sorte de vengeance, une sorte de féminisme, une sorte de... Et Oui, Diane, elle était jalouse. Comment cette vieille dame de 80 ans, elle a toutes ces lettres d'amour de plusieurs personnalités, de plusieurs écrivains, de plusieurs musiciens, des artistes, et elle n'a rien. Comment Tajal Moulouk n'arrête pas de parler de ses amours? Et elle n'ose pas même évoquer Youssef, son seul amour. Alors, cette sorte de jalousie, mais en même temps, elle s'est liée d'une grande amitié, puisque l'une avait besoin de l'autre. Oui, Diane avait besoin d'une mère qui la prend dans ses bras, et Tajal Moulouk, elle avait besoin de quelqu'un de lui raconter, qui vient de l'Irak, qui connaît Bagdad, et de lui raconter sa Bagdad à elle. Et qui sont très différentes de l'autre. Et quand j'ai dit que je n'ai pas prononcé le mot de Saddam Hussein, en fait, j'ai prononcé le mot de Saddam Hussein quand Tajal Moulouk, pendant la guerre, pendant que l'Irak a entré au Koweït, elle a essayé d'envoyer une lettre à Saddam Hussein pour lui demander de se retirer du Koweït parce qu'elle se considère comme l'étudiante de Nouri Saïd. Elle connaît bien les enjeux internationaux et elle a demandé à Oui, Diane d'aider à écrire une lettre en arabe et envoyer à Saddam Hussein. Elle attendait la réponse, elle pensait, elle rêvait qu'elle va avoir un jour une réponse et elle va se retirer du Koweït.
Et il ne lui a jamais répondu.
Jamais.
Saddam Hussein,
donc, jamais.
L'a-t-il seulement lu cette lettre? On ne sait pas, parce qu'encore une fois, cette lettre est véritable.
Oui.
Tadjan Moulouk a vraiment écrit à Saddam Hussein.
Oui, oui, et elle ne connaît pas son adresse. Elle dit, il suffit d'écrire Saddam Hussein, Bagdad.
Irak, Bagdad, voilà. Et pendant ce temps, elle a vécu aussi en France, mariée à un Français qui a fait la guerre d'Algérie, M. Champion. Elle s'appelle Martine Champion, parce qu'il lui trouve une ressemblance avec une actrice.
Elle a plusieurs.
Bon, bref, en tout cas, voilà, elle a plusieurs noms dans le roman, et quand elle est en France, elle est Martine Champion, épouse de Monsieur Champion, et devient une espionne. Il faut raconter cet épisode-là qui est vrai également.
C'est vrai.
C'est quand on l'envoie au Caire pour surveiller Ben Bella, dont la France veut la peau à ce moment-là.
Le liquider.
Oui, il veut le liquider.
Elle est partie avec un commando dirigé par son mari, qui était officier dans l'espionnage et contre-espionnage. Et son rôle dans le commando, comme elle parle l'arabe, c'était, il savait que Ben Bella, il fréquente un certain café tous les matins pour boire un café. Il était jeune à l'époque, avant qu'il devienne président, avant la guerre d'Algérie. Et son rôle est d'aller aborder Ben Bella et d'échanger quelques phrases pour être sûr que c'est lui. Et une fois qu'elle vienne, et elle parle avec lui. Elle le trouve un jeune homme très beau, un résistant, quelqu'un qui essaye d'obtenir l'indépendance de son pays. Il lui ressemble, elle, la révolte, la fille qui a dévié toutes les traditions. Et il dit, il est de mon religion. Pourquoi je dois le libérer ou donner au... aux Français. Elle rentre et dit à son mari, ce n'est pas lui. C'est quelqu'un qui parle de l'accent égyptien, mais pas algérien.
Donc elle mentira pour préserver la vie de Ben Bella. Drôle, enfin c'est une histoire très longue que celle de Tadjan Moulouk, et surtout qui rassemble et qui réunit tellement de passages de la grande histoire du monde arabe, notamment quand on parle de l'Irak, mais aussi de la Palestine dont est originaire son grand amour Mansour al-Badi. Lui, Mansour al-Badi, là on l'a laissé pour l'instant à Karachi, mais ce qu'on n'a pas expliqué, encore une fois, ce personnage a également existé. Après être tombé fou amoureux de Tadjan Moulouk et de l'avoir laissé partir sur un bateau quand elle a dû quitter le Pakistan, il l'a regardé partir, il l'a prise en photo avec son appareil photo qui est un Kodak, le seul objet qu'il a pu récupérer dans la maison de ses parents lors de la Nakba, la catastrophe. Lui, ensuite, il part au Venezuela, il est conseiller d'Hugo Chavez, ce qui rejoint d'ailleurs l'épisode de jeudi, puisqu'on va recevoir Miguel Bonnefoy pour parler du Venezuela avec son dernier roman. Qu'est-ce qu'il fait là-bas, auprès d'Hugo Chavez, Mansour al-Badi?
Mansour al-Badi, il avait une sœur qui habitait au Venezuela, une sœur aînée. Il était le seul garçon parmi sept filles. Sa sœur aînée vit à Venezuela. Quand il a quitté la Palestine, chassé de Jérusalem avec sa famille, sa sœur lui dit, venez ici, peut-être vous pouvez trouver un travail. Il va là-bas. Il aime le pays, il commence à enseigner à l'université, il fait un livre sur les problèmes frontières entre Venezuela et ses voisines. Et apparemment que Chavez a lu ce livre quand il a été en prison. Il a demandé, en sortant de prison, il a demandé de revoir l'écrivain et il l'a nommé ambassadeur de Venezuela à Ankara, en Turquie, et après, il est devenu son conseiller pour les problèmes de Moyen-Orient. Et tout ça, c'est vrai. Tout ça, c'est vrai. Et Mansour, il vient de décéder il y a 2 ans. Parce que j'ai resté en contact avec lui. Et pendant que j'ai documenté mon roman, j'ai pu avoir son email et on a échangé pas mal des lettres, surtout des lettres d'amour entre lui et Tadjan Moulouk.
Voilà, on ne dira pas ici, on ne dévoilera pas, il faut lire le roman. Est-ce qu'ils se sont retrouvés à Paris comme Ouidiane l'espérait, ces deux personnes très âgées au moment où Ouidiane rencontre Tadjan Moulouk, qui veut donc réunir ces deux personnes qui se sont aimées? On ne va peut-être pas le dire ici. Ce qu'on sait, c'est que, comment s'appelle-t-il, Mansour accompagne Hugo Chavez à Paris en 1999 pour un sommet de l'UNESCO qui a vraiment eu lieu aussi, puisque Chavez venait menait pour obtenir la reconnaissance des dirigeants occidentaux. Il y avait rencontré Jacques Chirac et plusieurs diplomates et intellectuels qui défendent à cette époque le soutien à l'Irak contre la politique de Washington. C'était avant le 11 septembre 2001 et avant donc que les États-Unis ne désignent l'Irak comme faisant partie de l'axe du mal.
This is not a war against the people. It is not a war against a country. It is most certainly not a war against a religion. It is a war against a regime.
And the war is underway. Live from Baghdad, Washington, Kuwait, and our correspondents around the globe, the strike on Iraq from the front line.
C'est une archive de la chaîne américaine CNN que Taj al-Mulouk et Widiane écoutent, regardent en boucle. Elles sont obnubilées par ces images. Elles suivent à distance cette guerre que les États-Unis mènent contre l'Irak. Vous aussi, vous l'avez suivie à distance, cette guerre-là.
Qui n'a pas suivi cette chaîne pendant la guerre? Et vous dites que Widiane espérait que les deux amants se rencontrent. Elle espérait et pas espérait. Mais il est venu à Paris et s'échappe loin de Paris pour ne pas voir les signes de vieillesse sur son visage. Elle a voulu rester jeune dans ses yeux. Mais elle a rencontré un autre personnage à Paris. Elle était après une opération de genou à l'hôpital militaire de Val-de-Grâce, puisque c'est la veuve d'un officier de l'armée, et qui était dans le même étage, dans une autre chambre, en train d'agonir à Val-de-Grâce. C'était Bembella. Quand il était déchu de présidence, il était très vieux, il est revenu se soigner à Paris, et elle a connu ça, elle a su, puisqu'il y avait un soldat, un soldat qui garde sa chambre.
Donc celui qu'on avait, celui que on lui avait demandé à une époque d'espionner pour pouvoir le tuer, qu'elle a finalement préservé. Bembella était dans la chambre du Val-de-Grâce, juste à côté de la sienne.
Et moi, je l'ai connue à cette époque-là, quand elle était vraiment très vieille. Je lui rends visite à Val-de-Grâce, et quand j'ai su que c'est Bembella dans le même hôpital, j'ai dit, écoutez, on va parler avec une équipe de Al Jazeera, on va filmer votre rencontre. Elle me dit, non, je ne vais pas demander pardon à lui. Je vais lui dire qu'il a vécu 50 ans de plus grâce à moi, parce qu'elle n'a pas dénoncé.
Est-ce qu'elle lui a dit ou pas, finalement?
Oui, ils n'ont pas rencontré. Il n'était pas permis d'aller le voir dans sa chambre.
Est-ce qu'elle a pu lire votre livre, Taj al-Mulouk, puisqu'elle est décédée récemment?
Je ne sais pas s'il a lu, mais en tout cas, il a reçu le livre. Il était à l'hôpital, en surveillance intense, et elle attendait le livre. Elle attendait le livre, elle l'a reçu le jeudi. Elle a regardé la couverture, sa photo sur la couverture. Elle est décédée le dimanche d'après. Oui.
Donc vous ne saurez jamais si elle a lu cette histoire-là.
Non. Elle l'a raconté, on dirait que c'était son livre. C'était son livre. Et le coïncidence peut que j'ai annoncé la décès de Taj al-Mulouk sur Facebook. Et j'ai reçu des centaines des mots de condoléances. On dirait qu'un personnage romanesque, elle devient un personnage réel, puisque dans l'obsèque de Taj al-Mulouk, dans une petite ville lointaine sur les frontières avec la Suisse, il y avait 2-3 personnes qui ont marché derrière la cercueil. Mais sur Facebook, il y avait un vrai deuil qui a dit au revoir à Tajel Mulouk.
On aurait beaucoup aimé faire entendre aussi une archive de la voix de Tajel Mulouk quand elle présentait les journaux sur la radio de Karachi. On n'en a pas trouvé, malheureusement, peut-être.
Non,
il n'y en a plus. Non. Ils n'ont pas été numérisés à cette époque-là. Elle avait donc cette photo. Elle a été enterrée, j'imagine, près de Thonon, là où vivait sa fille.
Voilà, Thonon, c'est
ce qu'on comprend dans votre roman également. Et a découvert, donc quelques jours avant de mourir, votre livre, Inam Kachachi, avec sa photo en couverture. Il se trouve qu'elle gardait toutes ces photos, et c'est comme ça que vous l'avez cru, en fait. Vous avez compris que son histoire était vraie. Elle gardait toutes ces photos et tous ces documents sous son lit. Ces photos qui, ainsi que celles de Mansour al-Badi, leur servent d'armure, comme si, écrivez-vous, elles constituaient pour l'émigré des documents d'identité qui prouvent leur appartenance au lieu perdu. Est-ce que vous aussi, vous conservez vos photos de votre Irak comme des trésors et comme une preuve de l'Irak que vous avez connu et qui n'existerait plus?
Oui, je les garde. Et il y a pas mal d'Irakiens qui ont publié des livres que des photos de leur passé. Ça veut dire le passé présent, c'est le passé d'une vingtaine ou trentaine d'années d'avant, pas le passé ancien. Et même ce sont des photos qui datent d'une trentaine d'années, on dirait qu'on est vraiment, vraiment loin de l'Irak d'avant. Et je n'ai pas... j'ai gardé, elle m'a laissé son archive, mais surtout j'ai voulu être sûre de ce qu'elle m'a raconté sur l'épisode de période d'être espionnée, espionnage et tout ça. Je l'ai filmé en photo et en vidéo, en train de parler, de raconter et de chanter, parce que c'était une chanteuse incroyable. Elle psalmodie le Coran, il y a un disque, Virgin Megastore, on trouvait dans les librairies, où elle psalmodie le verset de Marie de Coran.
On l'entend, en effet, c'est elle qui chante, c'est cette voix de votre personnage. Alors, le roman s'achève à peu près dans les années 2011-2012. On sait qu'avec Widiane, elle veille aussi aux printemps arabes. Elle les suit, elle les regarde éclore, elle suit les manifestations. On sait moins si elles suivront plus tard en 2019 les grandes manifestations qui ont lieu en Irak et dont nous parlera Adel Bakawan juste après, une autre chanteuse qu'écoutait votre personnage Tajel Mulouk, Férouz.
شفتك سنت تذكر وقتها آخر كلمة قلتها وما عدت شفتها وهلأ شفتها كيفك انت ملا انت تذكر آخر سهرة سهرتها عمّا
Quinta de Férouz, l'autre grande chanteuse arabe que l'on entend quand on lit l'indésirable d'Inam Kachachi, c'est Oum Kalsoum qui s'est donnée en concert à Bagdad en 1946. Et là non plus, aucun enregistrement, bien sûr, sonore ne nous est resté, malheureusement, mais c'est décrit dans votre livre. Inam Kachachi, vous écoutez Culture Monde, le premier épisode de notre série Les écrivains racontent le monde. Aujourd'hui, l'Irak, avec vous, Inam Kachachi, et votre roman L'indésirable et tous ces personnages qui font se croiser différents Iraks sur différentes périodes. Il s'arrête un peu avant la révolution, les grandes manifestations de 2019.
France Culture, Culture Monde, Julie Gacon.
Ces manifestations sont spontanées. Il y a des jeunes, des vieux, des femmes, des gens éduqués, et on demande juste nos droits. Ici, il n'y a pas d'emploi et les secteurs de l'éducation et de la santé sont déplorables.
Le Premier ministre et l'ensemble du gouvernement devraient tous démissionner car ils ont laissé les forces armées et l'armée frapper la population. Cette classe politique corrompue a dressé le peuple les uns contre les autres.
Extrait d'un reportage de RFI le 2 octobre 2019 à Bagdad, au début d'un mouvement social qui fut aussi l'expression d'un rêve, celui d'un autre Irak. Bonjour Adel Bakawan.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes chercheur associé au programme Turquie-Moyen-Orient de l'IFRI et directeur du Centre français de recherche sur l'Irak, le CEFRI. Vous êtes l'auteur de l'Irak, un siècle de faillite, paru aux éditions Talendier en 2021. D'abord, de quoi est née cette révolte de 2019? Pourquoi est-ce qu'elle a pris en particulier dans le sud du pays?
Écoutez, tout d'abord, la définition du mouvement, pour la première fois depuis la chute de Saddam Hussein, l'Irak post-Saddam Hussein, on a assisté à l'émergence d'un mouvement non ethnique et non confessionnel. Non ethnique parce que pour la première fois, on n'a pas les Arabes contre les Kurdes, non confessionnel parce qu'on n'a pas les chiites contre les sunnites et vice-versa. Donc un mouvement vraiment national avec le rêve d'un autre Irak, comme vous l'avez dit. Et ensuite, il y avait deux volets, le volet social et le volet politique. Le volet social, depuis la chute de Saddam Hussein, l'Irak fait partie des 20 pays les plus corrompus au monde. Le président de la République lui-même, il nous dit clairement que de 2003 à 2023, c'est-à-dire 20 ans, il y a eu 460 milliards de dollars partis en corruption. Mmh. Par exemple, le secteur de l'électricité, on a consacré 30 milliards de dollars. Et aujourd'hui, à Bassoura, la deuxième ville la plus grande en Irak, on a accès à l'électricité 3 heures ou 4 heures par jour. Vous voyez donc la corruption. Et ensuite, par exemple, le taux de chômage. Je vais rapidement, le taux de chômage dans ces provinces-là, de Bassoura à Bagdad, pour les jeunes, on est entre 40 et 45, voire 50%. Le taux de pauvreté entre Bassoura et Bagdad, toutes les provinces, on est entre 35 et 45. C'est énorme, c'est énorme. Par exemple, pour les femmes, 85% des femmes n'ont pas accès à l'emploi.
Donc 2019, c'est le moment où plus des jeunes se rendent compte, voilà, entre guillemets,
c'est une prise de connaissance de la base sociale, jeunesse, de cette jeunesse chiite, marginalisée, abandonnée, frustrée, qui n'a pas accès. Écoutez, en 2003, on n'avait pas un seul milliardaire en Irak. Mmh. En 2023, le nombre des milliardaires en Irak, 36 milliardaires, dépasse le nombre des milliardaires de 9 pays au monde.
Donc des
réunis.
Donc des disparités incroyables
exactement,
en Irak et qui, cette année-là, donc, sont dénoncées avec force par des jeunes. Surtout, il y a beaucoup, beaucoup de jeunes qui descendent dans les rues, notamment du sud du pays. À des revendications sociales s'ajoutent ensuite des revendications politiques, la fin des milices. Quelles milices, en l'occurrence, et quelle place est-ce qu'elles prennent à cette époque-là, encore récente?
Et là, on entre dans le volet politique. D'abord le social, ensuite le politique, et après, il y a une interconnexion entre les deux. Le volet politique, c'est quoi? C'est que de 2003 à 2019, on était dans un processus de ce que j'appelle dans mon livre la milicisation non seulement de l'État, mais aussi de la société. Le marché milicien devient un grand marché économique auquel les jeunes peuvent avoir un emploi, un salaire, une reconnaissance, une protection, la sécurité et accès aux ressources de l'État. Et ça, c'était la deuxième, par exemple, dimension de ce volet politique, c'est le modèle iranien. L'Iran a pris, après le départ des États-Unis d'Amérique en 2010-2011, l'Iran a rempli le vide et il voulait construire l'Irak sur son modèle. Son modèle était en crise totale. Pourquoi? Parce que le chômage, la pauvreté, etc. etc. Tout ça. Donc, et numéro 3, la domination absolue iranienne sur la totalité des institutions irakiennes, normalement qui revenaient aux chiites. Pourquoi? Parce que 50% des postes de l'État reviennent aux chiites. Et là, les jeunes, ils ont dit, mais non, nous sommes dépossédés, nous sommes dénationalisés. nous n'avons plus de pays. Il faut absolument entrer dans cette lutte pour récupérer le pays.
Et faire en sorte qu'aucune ingérence étrangère ne vienne interférer dans les affaires du pays. Des manifestations qui ont été très fortement réprimées. 600 jeunes tués en 3 mois. Avec le recul, et même si la répression, l'épidémie de Covid ont eu raison du mouvement, qu'est-ce qu'il a obtenu ce mouvement-là? Quelle trace a-t-il laissé, même encore aujourd'hui?
D'abord, l'acquis le plus important, le plus considérable pour moi, c'est qu'il a sémé le doute au sein de cette classe politique post-Saddam Hussein qui se pensait éternelle. Cette classe avait des vérités. Nous sommes là pour toujours. Pour la première fois, cette classe politique était en panique. J'étais là, je savais ce qui s'est passé. Pour la première fois, ils avaient l'impression qu'à un moment donné, ils pouvaient tous, un par un, ces acteurs politiques arrivaient au pouvoir, tombaient. Numéro un, ça c'est le doute, s'aimer le doute. Numéro deux, le premier ministre. Depuis la chute de Saddam Hussein, aucun premier ministre a démissionné. Pour la première fois, le mouvement a mis la pression et Adel Abdelmahdi, le premier ministre, a quitté le pouvoir. Numéro 3, il y a eu à peu près des milliers et des milliers de jeunes embauchés dans des différents services. Numéro 4, il y a eu des députés qui, à peu près 49, entrés à l'Assemblée nationale. Mais par contre, le système est tellement fort, le système est tellement flexible, a pu absorber pour le moment la colère.
Est-ce que peut-être aujourd'hui, si on devait faire une sorte d'instantané sur l'Irak d'aujourd'hui, notre attention a été très fortement détournée à la fois par la guerre à Gaza et surtout la façon dont l'Iran aujourd'hui interagit avec des, non plus ses voisins immédiats, mais des alliés au Proche-Orient. En Irak aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe?
Écoutez, rien n'a changé. Toutes les conditions qui ont fait émerger le mouvement de contestation en 2019, elles sont là. La seule chose qui a changé, c'est la peur parmi le mouvement de contestation. Lorsque je suis un jeune du Najaf et je me dis, je vais manifester dans la rue contre une organisation milicienne, parce que le gouvernement est représenté par les organisations, et j'ai à peu près 95% de risque, je dis pas de chance, de risque d'être assassiné, et ben je me pose 1000 fois la question. Sinon, le mouvement est encore là, les conditions sont encore là, et la domination iranienne, depuis bien évidemment l'éradication de Hezbollah au Liban, la chute de Bachar al-Assad, le démantèlement de Hamas et de djihad islamique, l'Irak devient le terrain par excellence de domination iranienne.
Vous restez avec nous, Adel Bakawen. Peut-être un mot sur cette répression qui est celle aussi que vous décrivez dans votre roman Unam Kashashi, à une toute autre époque, un tout autre contexte politique. Mais si votre personnage décide de quitter l'Irak à un moment, c'est aussi parce qu'elle a été identifiée lors des funérailles des martyrs de la Wadba. C'était pendant ces grandes manifestations de 48 contre les accords avec le Royaume-Uni, la Grande-Bretagne, les accords de Portsmouth. Mais cette répression existait déjà, elle existe toujours aujourd'hui. Adel Bakawen vient d'en parler. Cet Irak là, est-ce que vous y êtes retourné? Est-ce que vous trouvez que dans certains sens, certaines choses reprennent leur cours et d'autres pas du tout? Enfin, qu'est-ce qui vous inspire l'Irak de 2019 jusqu'à aujourd'hui que vient de raconter Adel Bakawen?
J'essaie toujours de garder l'espoir. Aujourd'hui, dans les informations, on a su que le président américain Carter vient de décéder. C'était pas un président pacifiste, mais le président Bush, le fils George W. Bush, est toujours là. Pour nous, pour moi comme Irakienne, c'est lui qui est responsable de tout ce que M. Khawam vient de raconter dans la catastrophe économique et sociale en Irak. C'est lui le responsable. Pour moi, il faut être jugé.
Adel Bakawen disait que lors de ces mouvements de 2019, il n'y avait pas de confessionnalisme, être chiite, être sunnite, ça ne comptait pas à ce moment-là. Est-ce que vous avez connu en Irak où ça ne comptait pas?
Moi, quand j'ai vécu en Irak, il n'y avait pas tout ça. Personne ne m'ose poser une question sur ma religion, sur ma confession. Même, c'est rien. J'ai vécu là-bas. J'ai étudié, j'ai travaillé, j'ai tombé amoureuse, j'étais mariée là-bas, j'ai eu mon premier fils. Personne ne m'a posé la question si j'étais chiite, sunnite ou chrétienne. Et pourtant, quand je suis arrivée en France, c'était la première question posée par les journalistes quand j'ai fait des livres.
Adèle Bakawan, dans tous les romans d'Inam Kachachi, il y a toujours des vieilles femmes, des grand-mères irakiennes qui racontent leur Irak, et c'est une façon pour nous de mieux comprendre comment ce pays a changé. Je vous pose la question à vous qui êtes chercheur, qui êtes politiste, comment vous nourrissez vos recherches de ce genre de récit?
Écoutez, je vais rebondir juste un indicateur. En 1979, le nombre des femmes médecins en Irak était à 49%. Aujourd'hui, le nombre des femmes, le taux des femmes, le nombre de femmes qui ne peuvent pas avoir accès à un emploi, c'est 85%.
Pourquoi elle en particulier?
Je vais vous dire, numéro 2. Dans les années 70, l'Irak était un modèle pour la totalité du Moyen-Orient. Au niveau de système sanitaire, système économique, même système de défense. L'Irak, l'université irakienne était un modèle pour les Algériens, les Marocains, les Tunisiens, même les Égyptiens, même les Syriens. Mais en 2023, je les garantis, le nombre des Irakiens qui ne savent pas lire et écrire, c'est 56%. Donc, oui, je suis tout à fait d'accord. Toutes ces guerres-là, de 1990, je pourrais même dire de 1980, la guerre Iran-Irak jusqu'à 90, l'embargo sur l'Irak, 2003, le califat d'Oudache. Ces guerres-là sont les premières responsables de ce qui se passe en Irak. En Irak, nous n'avons malheureusement plus des infrastructures d'un État fonctionnel.
Imane Kachachi, vous écrivez, et je voulais vous demander pourquoi, le grand-père de Mansour al-Badi disait que Bagdad est une vieille dame qui s'est frottée au monde, en a extrait le suc et distillé l'âme, de la même façon que les Bagdadiens tirent leur arak des dattes du palmier. Ils s'enivrent avec, puis dînent et rotent.
Oui.
Qu'est-ce que ça veut dire?
Bon, je ne sais pas comment l'expliquer. Je sais pas comment.
Est-ce que c'est le cas encore aujourd'hui, c'est-à-dire c'est aujourd'hui, une sorte de perpétuel comment est-ce qu'on peut dire, on est après les repas de Noël, je sais pas comment le dire, mais que l'Irak est toujours en train d'une sorte de phase de digestion qui ne se fait pas.
Oui, mais quand je parlais de l'arak, c'était notre boisson nationale. Pour les hommes, l'arak c'est comme la bière pour les Allemands. Et aujourd'hui, par décret, il est interdit de vendre de l'alcool dans les bars ou dans les
clubs.
Certains dans les clubs, même les clubs mixtes, c'est interdit que les gens achètent de l'alcool ou boire de l'alcool.
Depuis quand?
Depuis 2 mois.
Deux mois?
Oui, c'est récent.
Pourquoi, Adèle Bakawan?
Parce que tout simplement, les organisations miliciennes islamistes qui appartiennent à Wilayat al-Faqih imposent leur propre agenda religieux. Et ils n'étaient jamais aussi forts dans l'Irak pour Saddam Hussein.
Qu'est-ce que la chute de Bachar al-Assad là a changé? Une sorte de... Qu'est-ce que l'onde de choc syrienne est en train de provoquer?
Eh bien, la deuxième panique. La première panique commence avec le mouvement de contestation. Et la deuxième panique, je vous mets vraiment dans les faits, c'est que la totalité de cette élite qui dirige l'Irak pour Saddam Hussein est en panique totale parce qu'ils pensent que ce qui se passe en Syrie va arriver d'une manière ou d'une autre dans l'Irak actuel.
Merci à vous deux d'avoir été avec nous pour en parler et aussi pour vos regards qui se croisent sur cet Irak que vous racontez de vos deux manières différentes. Adèle Bakawan, l'Irak, un siècle de faillite, est apparu aux éditions Talendier il y a 3 ans. Et merci beaucoup, Inam Kachachi, votre dernier roman, L'Indésirable, apparu en novembre chez Gallimard. Merci d'avoir été avec nous pour en parler. Merci. Demain dans Culture Monde, nous recevrons l'écrivain palestinien Karim Khatan qui raconte l'histoire d'un amour impossible en Palestine. À demain.